Vous écoutez France Culture. Et n'oubliez pas que l'aiguille est à la femme ce que la plume est à l'écrivain. Florence Sestac. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui reçoit ce soir la dessinatrice et scénariste Florence Sestac sur l'occasion de la sortie aux éditions d'Argo de deux albums. Fille des oiseaux, n'oubliez jamais que le Seigneur vous regarde, ou quand les Magdalene Sisters sont filmées par Philippe de Broca, ou Harry Mixon & Co, album mémoire des années futuropolitiques de notre invité. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais genre qui reçoit ce soir Florence Sestac. Bonsoir Florence Sestac. Vous êtes donc notre invité pour deux albums qui paraissent chez Dargo, je le répète, Fille des oiseaux et Harry Mixon & Co. C'est moi, j'ai trouvé d'ailleurs la belle maxime qui ouvre cette émission dans Fille des oiseaux. Il y a des moments comme ça de sagesse. Vous distribuez des conseils aux femmes, aux jeunes filles.
Voilà, c'est des phrases qui m'ont marqué, qui ont été dites dans mon adolescence chez les sœurs, c'est au pensionnat des oiseaux. Et c'est des phrases qui m'ont marqué parce que je m'en souviens encore à mon âge. Donc ça vous reste dans la tête, quoi. Comme par exemple de se promener dans la rue avec les sœurs et de croiser un groupe de garçons et la sœur vous disant « Baissez les yeux, mes filles, voilà le péché qui passe ».
C'est merveilleux, admirable, ça.
C'est merveilleux, non ?
Très bien, justement, on va découvrir un peu avec vous cet univers ô combien piquant, un peu traumatisant, il faut le dire aussi, des institutions pour jeunes filles de province, mais conçues selon un modèle parisien bien connu, la célèbre institution des oiseaux, un univers que nous découvrirons en compagnie d'Antoine Guillot. Bonsoir Antoine.
Bonsoir François.
Qui n'est pas allé aux oiseaux, lui, il est allé où ?
Ah, il a été.
Alors, racontez-nous votre enfance.
Dans le public, à la communale, mais avions quelques maîtres intéressants aussi à l'époque.
Qui vous annonçaient aussi que quand les filles passaient, qu'il fallait baisser les yeux.
Ah, je suis d'une génération, François Angelier, qui a découvert la mixité à l'école. Donc,
c'est plutôt ma génération.
Ce qui m'a permis de faire mon primaire dans une école de filles, parce qu'il y avait marqué école de filles sur le fronton de l'école.
Heureux homme, eh bien, avant de démarrer cette émission et de donner la parole à Céline Duchesnay, quelques mots sur le festival Formula Bula.
Alors, le festival Formula Bula, qui est chaque année un peu plus excitant, se fait sur deux week-ends cette année. Hein, ça va être très vite du 30 septembre au 2 octobre au Point Éphémère à Pantin et au Canal de Lourcq. Et puis, le week-end suivant au Carré Salazar à la Gare de l'Est. Alors, beaucoup d'expositions, beaucoup de rencontres. Florence Sestac, par exemple, discutera avec Françoise Mouly dans une rencontre qui s'appelle Future Row.
Qui est Françoise
Mouly ? Françoise Mouly, directrice artistique du New Yorker, celle qui commande ces merveilleuses unes qu'on voit faire par de nombreux artistes français, hein, très souvent, et puis créatrice avec Art Spiegelman de l'essentiel revue Raw dans les années 70, cousine en quelque sorte de ce que faisait Futuropolis à l'époque. Et tout ça sera animé, cette rencontre, par Jean-Pierre Dionnet, titré Lone Gunman préféré du festival. Vous saurez tout aussi sur Crazy Cat, avec une conférence sur comment adapter Crazy Cat, et ça on en reparlera tout à l'heure avec Florence Sestac, puisque 20 ans après Futuropolis, ce sont maintenant les Rêveurs, la maison d'édition de Manu Larcenet, qui édite Crazy Cat. Comment traduire Crazy Cat, ce sabir improbable, mélange d'argot yiddish, anglais, espagnol? Eh bien, Marc Voline, qui se colle au boulot, nous racontera comment il faisait. J'imagine que Florence Sestac avait eu quelques difficultés aussi à l'époque. Et puis Anouk Ricard aussi, Anouk Ricard avec sa bande dessinée enfantine et délurée viendra également parler. Voilà, beaucoup de rencontres dans ce festival tout à fait décontracté mais très exigeant.
Le lieu et les dates.
Alors je vous rappelle le lieu et les dates, c'est du 30 septembre au 2 octobre au Point Éphémère et à Pantin et sur le canal de Lourcq, parce qu'il y a des péniches aussi, vous pouvez vous embarquer avec des dessinateurs, ils ne peuvent plus descendre, ils sont obligés de parler avec vous et éventuellement de vous faire des dessins. Et les 8 et 9 octobre au Carré Saint-Lazare à la Gare de l'Est, Formula Bula.
Voilà, les péniches sont également à l'honneur dans une semaine lors de la Nuit Blanche Parisienne qui est mise cette année sous l'invocation de la Seine, de ses ponts et des nombreuses véhicules nautiques qui y circulent. Mauvais genre y sera, bien évidemment. Mais avant cela, et avant d'en savoir un peu plus sur les oiseaux et sur Harry Mixon, fils tardif de Harry Dickson. Eh bien, nous allons ouvrir, comme tous les samedis, l'encyclopédie pratique des mauvais genres. Et à quelle lettre, cette fois-ci,
eh bien,
ma chère Céline?
Ce soir, je propose la lettre D, comme Delay, Clémentine Delay, femme à barbe, née dans les Vosges en 1865, qui, après des années passées à se raser, décide un beau jour d'assumer sa barbe, qu'elle porte dès lors fournie et longue. Alors, la vie de Clémentine Delay gagne vraiment à être connue, et c'est un parcours de femme que raconte la dessinatrice Pénélope Bagieux dans son tout nouvel album intitulé Culottée, E-E-S, dédié aux femmes qui ne font que ce qu'elles veulent. Pénélope Bagieux.
Ok, elle a une barbe. Et ben en fait, elle va vraiment avoir sa barbe. Et donc, elle décide de se laisser pousser la barbe. Et son mari a des rhumatismes, donc doit arrêter d'être boulanger. Et donc, il décide de racheter un PMU, quoi, un petit café dans leur bled dans les Vosges. Et elle décide de le rebaptiser carrément le café de la femme à barbe. Et elle décide qu'elle va pas faire les choses malgré sa barbe, mais grâce à sa barbe. Et qu'elle va devenir un vrai objet de curiosité, mais pas de curiosité malsaine. C'est qu'elle va être quelqu'un qu'on va venir voir de loin. Et en fait, elle n'imagine pas à quel point elle a vu juste, puisque elle devient un modèle. Ce qui est quand même inhabituel pour l'époque. Elle vend des photos d'elle, les gens s'arrachent ses photos. Elle devient... Ça aussi, c'est assez singulier. La mascotte des poilus. C'est-à-dire que les poilus s'échangent sous le manteau des photos de Clémentine Delay et de sa barbe. Elle est très fière de sa barbe. Elle pose habillée en homme, ce qui était interdit à l'époque. Elle se travestit.
Interdit de porter des pantalons.
Interdit de porter des pantalons. Et elle décide de jouer le jeu jusqu'au bout. Elle est très impressionnante, elle est très grande et très costaud. Mais elle a aussi, par exemple, une très grosse poitrine. Et elle est habillée en costume d'homme, avec ses gros seins et sa grosse barbe. Et elle devient vraiment, c'est-à-dire que jusqu'à Paris, les gens sont avides de photos de Clémentine. Elle est reçue par les têtes couronnées d'Europe qui viennent la voir, mais pas du tout comme on va voir au cirque un animal. C'est qu'ils la reçoivent, ils viennent pas la regarder. Elle est reçue en grande pompe. Et en fait, son mari finit par mourir et elle se demande ce qu'elle va faire de la fin de sa vie. Et elle se dit, est-ce que je redeviens boulangère? Est-ce que, voilà, bon, on lui propose de rejoindre un cirque. Ça, c'est ce que moi, j'ai imaginé, mais j'imagine qu'elle le vit vraiment comme une gifle. C'est-à-dire, pour elle, c'est vraiment reculer, faire machine arrière et être dénigrée qu'on lui propose encore, après tout ce qu'elle a accompli, d'être uniquement un objet de curiosité dans une boîte. Donc, elle envoie promener le directeur de cirque. Entre-temps, elle a une petite fille. Et finalement, elle décide que la meilleure façon de finir ses jours, c'est de faire du cabaret sur scène dans son café de la femme à barbe. Et donc, elle reconvertit son café en cabaret où elle fait un spectacle avec sa barbe, sa fille et un perroquet. Et donc, voilà, elle finit ses jours en allant encore plus loin. Elle monte sur scène, elle chante, elle danse, voilà. Et donc, elle avait demandé que son épitaphe soit « Ici gît la femme à barbe ». Donc vraiment, jusqu'au bout, elle veut que ce qu'on retienne d'elle, c'est précisément ce qui aurait pu être un handicap pour elle, mais qui l'a jamais été. C'est vraiment très surprenant de voir des images de Clémentine Delay, parce que c'est très difficile de croire que c'est une femme. En plus, elle essayait pas du tout de... Elle est très coquette, mais elle a une corpulence en plus de sa barbe qui font que vraiment, c'est difficile à croire. Et pourtant, c'est une femme, c'est sûr. Et puis, elle a... Du coup, j'avais envie de la représenter comme elle était, c'est-à-dire majestueuse. Moi, je l'imaginais vraiment... J'imaginais quand elle rentrait dans une pièce, en plus du fait qu'on la voyait, parce qu'elle était assez visible, j'imaginais qu'elle s'excusait pas du tout d'exister. Pour moi, c'était quelqu'un qui devait aussi parler très fort, être très gracieuse. J'imagine qu'elle devait être très drôle, qu'elle devait être très haute en couleur et très belle, en fait.
Et la barbe, comment est-ce que vous pourriez la décrire ?
J'imaginais que si moi j'avais une barbe demain et que je décidais qu'elle est mon petit plus dans la vie et pas un handicap, j'aurais envie qu'elle soit magnifique, qu'elle soit soyeuse, qu'elle ait des belles boucles. Ce ne sera pas une vieille barbe toute fouillie. Je pense que j'aurais une belle barbe de hipster, très soyeuse, dont je prendrais bien soin. Je mettrais beaucoup d'huile dedans. Je pense que à partir du moment où Clémentine Delay a dit « Maintenant, il faudra compter sur le fait que j'ai aussi une barbe en plus de mes cheveux », eh ben, ce serait une extension de sa crinière. Et donc, ce serait un objet de fierté et que du coup, elle serait belle, volumineuse et... Oui, bon, très égoïstement, c'est aussi un super plaisir de dessin, de dessiner des belles courbes. Donc voilà, elle était toute plantureuse, pleine de courbes, avec une belle barbe.
Mmh.
Les belles courbes de la barbe de Clémentine Delay sont à découvrir dans Culotté, le nouvel album de la dessinatrice Pénélope Bagieux, un album sorti chez Gallimard Bande Dessinée qui rassemble 15 récits de femmes culottées qui ont décidé de prendre en main leur destin. Clémentine Delay et sa folle barbe ouvrent le bal, mais il y a aussi Margaret Hamilton, actrice américaine qui sut jouer de son long nez et de son étrange physique pour interpréter les sorcières les plus effrayantes de l'histoire du cinéma. Annette Kellerman, la nageuse australienne de la Belle Époque qui inventa le premier maillot de bain pour femmes, Tove Jansson, créatrice finlandaise de Moomin le Troll, qui entendait vivre sa vie et sa sexualité selon son bon vouloir. À noter que le volume 2 de Culotté sortira début 2017. Et si l'histoire des femmes vous intéresse, ou alors peut-être même pour prolonger la bande dessinée de Pénélope Bagieux, j'attire votre attention sur une exposition dont je vous reparlerai d'ici quelques semaines. Il s'agit de Très Portrait au musée Chantreuil à Pont-de-Vaux dans l'Ain, où vous pourrez retrouver une très grande peinture de Marie Morel, 15 mètres de long, qui rassemble 400 portraits de femmes qui ont marqué l'histoire par leurs exploits, mais que l'on ne retrouve pas pour autant dans les manuels scolaires. Donc 400 femmes remises sur le devant de la scène grâce au pinceau tendre de Marie Morel, artiste singulière de l'intime et du poétique, et ce, c'est à voir jusqu'au 30 octobre.
Merci Céline, donc, pour cette entrée femme culottée de notre encyclopédie, ou Bénédicte Bagieux, pardon, de Pénélope Bagieux, oulala, je commence déjà à confondre cette demoiselle. Donc, de l'encyclopédie pratique des mauvais genres, Florence Estac, dans Fille des oiseaux, il n'y a pas de femme à barbe, mais il y a des nonnes moustachues.
Oui, parce qu'elle laissait tout pousser. Il n'y avait pas beaucoup de soins et souvent elle sentait assez mauvais, faut dire.
Ce qui n'est pas le cas de la femme à barbe, qui entretenait sa barbe.
Antoine Guillot.
Oui, moi j'ai lu ce Culotté de Pénélope Bagieux et je suis très content du tour que prend Pénélope Bagieux, en fait, qui s'était, il me semble, au début, laissé enfermer un peu dans une case de la BD girly, dans le sens presque marketing de la chose, et elle-même certainement se sentait très réfrénée par ce qu'elle faisait. Et après le formidable livre qu'elle a fait sur Cass Elliot, California Dreamin', la chanteuse des Mamas and Papas, où son trait s'était libéré dans une sorte de crayonné comme ça, très très énergique. Elle a su perdre la joliesse en fait qu'elle avait dans son trait auparavant pour raconter ses destins de femmes absolument passionnants. Moi, les Agnodis, la première femme gynécologue dans la Grèce antique, c'est une histoire complètement sidérante. Des histoires de travailleuses sociales en Afrique aujourd'hui, et elle arrive à le rendre assez palpitant à chaque fois. Donc c'est un très bel exercice qu'elle fait, à la fois sans être dans quelque chose de
géographique ou de
ni revendicatif. Elle fait des vrais portraits de femmes, ce qui est souvent, y compris dans leurs ambiguïtés, hein, c'est pas du tout des personnages forcément sympathiques, mais des personnages impressionnants et qui comptent vraiment. Tout ça sur un blog qui est fait sur le Monde,
hein,
il me semble. Donc cette régularité, je pense, l'a obligée à se libérer, comme je disais, d'une certaine joliesse tout à l'heure et aller franchement dans ses portraits.
Florence Sestac.
Voilà, c'est la démonstration claire et nette qu'un auteur, ça se forme au long des années et on commence toujours par faire des trucs un peu bricolés, tout ça, puis après on trouve sa vraie voix et Pénélope, elle est en plein dedans, quoi. Donc il faut être patient.
Donc il faut dire aussi un très beau travail éditorial qu'a fait Gallimard, parce que la couverture est comme ça un peu en relief avec une sorte de miroir rouge qui fait que selon comment vous le bougez sous la lumière, certaines femmes apparaissent comme ça en évidence comme des fantômes qui sont prêts à vous surgir à la figure. C'est vraiment un très beau travail.
Il est temps donc maintenant dans Mauvais Genre ce soir sur France Culture, eh bien nous engager dans la voix, mais celle de Florence Sestac. Walton Gunman, un choix de Laurent Polleret pour notre playlist de ce soir dans Mauvais Genre. Alors Florence Sestac, vous allez maintenant recevoir la plus haute distinction de l'émission, la formule consacrée, une présentation par Antoine Guillot.
Alors Florence Sestac, ça ne s'entend peut-être pas à la radio, mais Florence Sestac est une autruche.
Oui. C'est comme je me disais aussi.
Non, c'est moi qui le dis, hein, c'est moi qui l'a dit. C'est moi qui l'ai créé.
Voilà, c'est une autruche revendiquée parce que auteur, autrice, auteure, tout cela était très compliqué. Donc soyons une autruche, c'est-à-dire une créatrice de bandes dessinées, auteur et scénariste, parfois simplement dessinatrice sur des scénarios d'autres comme Pétillon, Telet et d'autres. Alors, Florence Sestac, c'est d'abord, ça a été pendant longtemps, pour ceux qui fréquentaient une certaine librairie de bande dessinée, une des premières dans le 15e arrondissement de Paris, c'était la cofondatrice et cheville ouvrière multisupport. Je crois qu'il n'y a pas un métier dans l'édition que vous n'ayez fait, voilà. Au sein de Futuropolis. Futuropolis, essentielle maison d'édition créée en 1972. Dont la première période, on dira, s'est arrêtée en 1994 après le rachat par Gallimard, et puis qui a revécu d'une façon très différente dans le nouveau Futuropolis qui existe actuellement et dont on a régulièrement reçu des auteurs. Et parallèlement à ça, donc Florence Sestac, quand elle pouvait, était une dessinatrice qui publiait dans tous les supports de l'époque, qui allait de A Nana à Métal Hurlant, en passant par Écho des savanes à suivre et autres, une dessin un peu dispersé qu'on retrouve rassemblé, on va en parler tout à l'heure, dans Harry Mixon et compagnie, mais qui lui a valu quand même un prix du meilleur album d'humour avec Les vieux copains pleins de pépins en 1989, première distinction à Angoulême, en attendant la grande, l'immense distinction qui fait de Florence Sestac la seule autruche à avoir reçu le grand prix de la ville d'Angoulême en 2000, et Charlie Schlingot, dont on va parler tout à l'heure, je m'en souviens, j'étais en dessous, a proclamer à la face du monde, au balcon de l'hôtel de ville d'Angoulême, la distinction remise à Florence Sestac. Et puis, on pourrait dire au départ que Florence Sestac était une autruche pour auteur, d'une certaine manière. Elle était beaucoup plus connue dans le milieu, petit milieu de la bande dessinée, à la fois de tous les auteurs qui fréquentaient Futuropolis et les différents supports dans lesquels elle collaborait. Mais on dira qu'au début, ce n'était pas une auteure très grand public. Et puis, voici qu'arrive Le démon de midi, où... J'adore le sous-titre. Changement d'herbage.
Réjouis
les veaux, 1996. Et là, immense succès. Florence Sestac parle à la France entière et pas seulement aux quadragénaires dont les maris sont partis pour aller avec une jeunette. Une série, ça devient une grande série puisqu'il y aura ensuite Le démon d'après-midi, puis Le démon du soir. On attend Le démon de minuit promis pour prochainement et qui est une manière de raconter ce qu'est être une femme aujourd'hui avec les années qui passent et les aléas qui se présentent. Donc Le démon de minuit, ça sera sur la maison de retraite. Le démon du soir, c'est la vie d'une sexagénaire, et on peut reprendre tous les 10 ans.
Il y a un démon qui sort.
Donc, très grand succès populaire, grâce à la pièce notamment de Michel Bernier, au film qui en a été tiré. Tout d'un coup, Florence Sestac devient un auteur, une autruche, grand public, que nous avons la grande joie de recevoir ce soir.
Manque-t-il une plume à l'autruche, Florence Sestac?
Je vais mettre, là. Bravo. Oui, autruche, c'est moi qui ai inventé le mot, parce que, effectivement, souvent, quand on se fait interviewer, alors vous êtes auteur, auteuse, autruche, je dis. Et donc là, ça désangoisse, quoi. Voilà.
J'ai oublié aussi une collaboration importante pour la presse dite jeunesse avec notamment les Débloques et les Débloques qui paraissaient dans le journal de Mickey, si je me souviens bien. Et puis des histoires d'adolescents aussi, assez bien vues également.
Voilà. Merci Antoine donc pour cette présentation de notre invité de ce soir de Mauvais Genre, Florence Sestac. On a évoqué les multiples démons qui viennent hanter les vivants à différents âges de leur existence. Et bien maintenant, on va rejoindre celles qui n'ont cessé de lutter contre le démon qui peut assaillir les jeunes filles, les religieuses des oiseaux. We'll be right back.
mauvais genre, François Angelier.
Alors, effectivement, fille des oiseaux, on connaît souvent, plus de loin que de près d'ailleurs, la célèbre institution des oiseaux qui veille à la pureté et à l'éducation des jeunes filles du bon monde dans le 16e arrondissement de Paris. Mais ce que l'on sait moins, c'est que cette noble maison a des antennes en province.
Avait des antennes, je crois. Enfin,
elles ont disparu, les antennes ont été repliées
ou... Moi, où j'étais, c'était à Honfleur et ça n'existe plus. Voilà. Donc, effectivement, je crois qu'il y en a moins qu'avant, quoi.
Ce pays va mal. Donc, vous avez Mais été oui, vous-même élève.
Vous voyez, je m'en suis sortie. Hein. Vous voyez, ça mène à tout, les oiseaux.
De l'antenne des oiseaux, donc, dans Fleur, vous avez tiré donc ce premier tome. Il y en aura un second. Fille des oiseaux, n'oubliez jamais que le Seigneur vous regarde. Alors là, qu'est-ce que vous avez souhaité faire dans le départ à la fois faire? Parce que, à la fin du volume, il y a des photos. Donc, voit très bien, après avoir lu la bande dessinée, eh bien, quels étaient pour les modèles, quelles étaient les sources d'inspiration de l'ensemble. Mais quel a été le but premier?
C'est un peu un témoignage sur l'époque où, effectivement, nous, la religion, on était un peu asphyxiés. Enfin, moi, quand j'étais adolescente, on était asphyxiés par la religion. Et c'est comme un peu toutes les religions, le corps de la femme pose toujours un problème. Donc, il fallait se cacher, il fallait mettre des grandes jupes longues, mettre des chaussettes, s'habiller, mettre un béret, s'habiller en bleu marine. Enfin, on étouffait. On ne pouvait pas mettre de pantalon sans mettre une jupe par-dessus. Enfin, bref, voilà. Le corps de la femme a toujours posé problème. Donc, c'est un témoignage. Et puis l'autre chose que je voulais aussi montrer, c'est une amitié entre deux filles qui avaient rien au départ pour se rencontrer. Alors c'est effectivement une école où on mettait les filles de bonne famille pour les mettre dans le droit chemin, et qui venaient de Neuilly ou Paris, tout ça. Et puis il y avait aussi la fille du paysan du coin, parce que c'était plus pratique, c'était plus près de chez elle, quoi. Et donc il y avait un espèce de mélange comme ça, alors qu'à cette époque-là, vraiment les classes sociales se mélangeaient pas du tout. Donc voilà, je raconte l'amitié de deux filles qui au départ se seraient jamais rencontrées et qui vont se voir tout au long de leur vie, quoi.
Alors, amitié qui dépasse la simple fréquentation de dortoir ou d'heures de temps libre, oui. Puisque l'une découvre la famille de l'autre. Alors, oui. La fille de paysan découvre, eh bien, la noble bourgeoisie du 16e arrondissement. Et inversement, pour son plus grand profit affectif et érotique, la fille du 16e, eh bien, se risque à fréquenter peut-être un garçon de la campagne. On voit comment tout cela évolue. Alors, évidemment, Antoine Guillot, je raconte ça, je parlais de Philippe de Broca. C'est vrai que c'est un côté un peu amusant, une chronique comme ça, historique, sociale, avec quand même une gravité et des aspects très sérieux, mais ça n'est pas une histoire marrante du tout.
Ah ben, on touche à l'art même de voilà. Florence Sestac. C'est-à-dire, je parlais tout à l'heure de la. Excusez-moi des gros mots, l'art avec un grand A, puisque c'est ça.
Formidable.
Non, mais si on reprend par exemple le démon de Midi dont je parlais tout à l'heure, ça a tout du drame. Enfin, c'est une histoire qui peut être tout à fait dramatique. Si on prend celle-ci, on voit des rapports de classe qui finissent par se résoudre de manière très sombre. Et laissant beaucoup un goût saumâtre presque dans ce qui se passe. Il se passe des choses absolument atroces. Et alors, l'art de Florence Sestac, c'est de faire une sorte d'autofiction rigolarde. C'est-à-dire que tout ce qui pourrait nous faire pleurer, d'être absolument atroce. Alors, on parle quand même, et c'est sans doute une des raisons pour laquelle vous avez fait ce livre, c'est rappelez-vous ce qu'était la France d'avant mai 68. Voilà. C'est-à-dire que certains peuvent se dire, et il y a une certaine tendance dans la société en ce moment à vouloir remettre en cause les acquis de mai 68 et se dire c'était tellement mieux avant, rappelons-nous ce que c'était avant, mais alors tout ça d'une manière extrêmement drôle, avec aidé par ce graphisme que donc on connaît bien maintenant de Florence Sestac, le gros nez et le côté rond qui d'ailleurs on y reviendra peut-être qu'il est moins il me semble dans ce livre-ci, qui est de voilà. Il faut en rire parce que sinon c'est vraiment trop atroce. Alors comment ça s'écrit ça? Parce qu'à partir de souvenirs qui sont, j'imagine pour vous, pas toujours très rigolo. Comment est-ce qu'on en fait quelque chose qui a ce côté presque carnavalesque par moment, le rire féroce?
Voilà, pour moi, c'est plus facile de raconter même des histoires dramatiques avec les gros nez. Ça fait passer un peu la chose. Ça fait un peu, voilà, comme vous disiez sur le démon de midi. Effectivement, c'est dramatique, mais avec les gros nez, bah, ça passe. J'ai fait aussi un album avec Pétillon qui s'appelle Super Cato et qui est sa propre histoire qu'il a vécue quand il était petit et il voulait pas la dessiner. Il m'a dit avec les gros nez ça passera mieux quoi. Et effectivement ça nous permet de faire des choses qu'on ferait pas avec un dessin réaliste quoi. Alors comment, mais surtout un dessin réaliste, on pleure, quoi. On pleure à la fin.
Alors comment vous procédez presque? Est-ce que vous pouvez nous faire rentrer dans la cuisine de l'autruche? Qu'est-ce qui ressurgit? Parce que tout ça
dans
n'est pas
dit.
On s'imagine par exemple que les deux personnages féminins, c'est vous, les deux.
Non, c'est ni l'une ni l'autre, justement.
Alors c'est ni l'une ni l'autre. Voilà. Mais en même temps, ça marche sur un terreau qui est quand même du vécu. Donc comment est-ce que ça s'écrit tout ça?
Bien sûr. Alors c'est du vécu. Ces deux filles ont vraiment existé. Elles s'appellent pas comme ça dans la vraie vie, mais c'est deux filles que j'ai connues dans le pensionnat. Moi, j'étais un peu au milieu. C'était une fille de petit bourgeois de province, et donc j'avais la riche fille de Neuilly et la fille de paysanne. Donc elles ont vraiment. Et donc après, j'ai les personnages, et puis après, je bâtis l'histoire autour. La fille qui se retrouve enceinte au pensionnat des oiseaux, je l'ai vécue. Voilà. Donc ça, c'était un drame à l'époque. Je pense que ça, après ça, le pensionnat a fermé. Donc voilà, c'est toutes ces anecdotes que je mets bout à bout, et puis j'arrange ça à ma sauce avec mes petits personnages. Et puis, effectivement, pour raconter même l'histoire de tampons hygiéniques et tout, et ben, hop, on fait des pirouettes et ça passe mieux, quoi.
Céline Duchesne.
Vous dites ça parce que j'ai grand ouvert sous les yeux l'épisode du
le
tampon.
Le moment tampon.
Voilà, le moment tampon. Et ce qui est en effet extrêmement intéressant, c'est qu'on est là dans un milieu clos entre femmes et qui ont un rapport au corps toutes absolument différent. Donc il y a le groupe des religieuses qui ont un rapport très distant à leur propre corps. Mmh. Et puis ces petites jeunes femmes qui sont en train de découvrir leur sexualité, un certain attrait autour de l'érotisme. Et alors, il y a ce moment où tout à coup, l'une découvre l'usage du tampon et va essayer d'expliquer aux autres que c'est la libération totale. Et par rapport à cet objet du tampon, donc il y a deux regards qui sont assez intéressants. Alors là aussi, j'imagine que ce sont des anecdotes que vous avez gardées. Il y a la religieuse qui découvre donc l'objet et qui appelle ça l'objet du démon qui va percer votre hymen, pauvre voilà. Ignorante.
Des gars collatéraux.
Vous ne serez plus vierge pour votre mariage, pécheresse. Oui. Et de l'autre côté, on a quand même ces petites jeunes femmes qui, elles, parlent justement de l'invention du siècle. Donc le contraste autour d'un objet qui est assez représentatif de la femme et de ce qu'est une femme aux alentours de l'âge de 13 ans, j'ai trouvé était extrêmement bien croqué.
Bien sûr, et il y a seulement 50 ans de ça, et effectivement, maintenant les tampons, c'est un truc normal, et alors qu'à l'époque, c'était effectivement prohibé, et alors au pensionnat, c'était péché, quoi. C'était péché, tout était péché de toute façon.
Elle parle même de cet objet de Satan.
Oui,
Satan est convoqué
bien sûr.
Auprès du tampon.
Non, c'était grave, c'était grave. Et donc tout était un peu le problème du pensionnat, c'est que tout était péché.
Le corps était refoulé, donc il fallait à la fois s'en occuper et en même temps ne pas en parler trop, le traiter comme une sorte de mal nécessaire peut-être.
Exactement, et puis il fallait se confesser tout souvent. Voilà, bien sûr, avant d'aller à la messe et tout. Donc, je me souviens qu'on s'inventait des péchés, quoi. J'ai des mauvaises pensées, j'étais gourmande, j'étais en n'importe quoi pour qu'on nous foute la paix, quoi. Voilà. Mais il fallait trouver des péchés. C'était dingue, quoi. Donc, dans cette ambiance-là, soit on devenait cinglé, soit on réagissait violemment, quoi. Chose que j'ai faite.
C'est l'impression générale que ça donne, parce que vous parliez tout à l'heure de Philippe de Broca, on pourrait aussi parler de Zéro de conduite, c'est-à-dire qu'il y a un côté vive les écoles religieuses, vive la répression, parce que ça crée des révoltés. Vos personnages sont dans une rébellion permanente. C'était comme ça l'ambiance là-bas, où vous avez voulu narrativement montrer à quel point il fallait s'opposer à cette...
Non, on était comme ça, on avait fait une bande de filles. Alors souvent c'était des filles avec des caractères bien trempés, parce qu'on les mettait effectivement pour les remettre dans le droit chemin, donc... À l'origine, elles avaient un caractère bien trempé, et donc c'était l'école de la déconnade, quoi. On cherchait des farces à faire, des provocations à faire aux bonnes sœurs. On leur punaisait le voile pour voir si elles avaient les cheveux longs en dessous, parce que
ce qui est montré pendant une messe.
Pendant une messe, pourquoi? Parce que on se disait qu'elles vendaient leurs cheveux pour se faire un peu d'argent et tout ça, et donc pour vérifier si elles avaient les cheveux courts ou longs, et ben on punaisait le voile au dos de la chaise, et quand elles se relevaient, ça enlevait le voile. Donc c'était ça sans arrêt, quoi, sans arrêt. Donc on se faisait punir, mais en même temps, c'était la révolte permanente.
Alors vous mettez en scène, Florence Sestac, deux oiselles en révolte contre l'institution, mais j'imagine que l'essentiel du troupeau obéissait plutôt. Est-ce qu'il y avait même, des jeunes filles dont vous auriez pu aussi raconter l'histoire, qui allaient dans le sens des religieuses, qui étaient des filles de piété exaltée, voire mystique?
Bien sûr. Mais de toute façon, il y avait deux chemins à l'époque, hein, pour une femme. C'était soit elle devenait une parfaite épouse et elle apprenait à tenir sa maison et tout ça, ou elle devenait la servante du Seigneur. Il y avait deux voies. Il n'y en avait pas d'autres, donc c'était simple. Alors il y en a qui sont restés dedans, ça c'est sûr, quoi. Ou alors c'était l'explosion, quoi.
Alors, ce que vous racontez aussi dedans, c'est qu'il y a des différences de classe entre bonnes sœurs. Voilà, ce que j'ignorais moi totalement, c'est que selon son niveau social au départ, si on donnait beaucoup d'argent au couvent, on devenait immédiatement une mère.
J'ai une tradition.
Sinon, donc on était simplement une sœur.
Ces
différences de statut entre les bonnes sœurs, vous les observiez comment du haut de vos, je ne sais pas à quel âge vous y êtes arrivé, 12, 13, 14 ans.
La mère, c'était la chef, quoi. C'était celle qui commandait tout le monde et tout. Et puis les sœurs, elles faisaient les petites tâches, elles faisaient l'école et tout ça. Elles avaient des grands tabliers, elles s'occupaient un peu de tout. Puis la mère supérieure, c'était un peu la reine-mère, quoi, qui dirigeait le truc, quoi.
Mais question un peu naïve, il n'y avait pas de cours de dessin, pas interdit, c'est satanique le fait de faire de beaux dessins.
Non, il y avait des cours de couture, parce que de dessiner, c'était pas pour une mère de famille, enfin, on rigolait pas, pas du tout. Donc, un cours de couture, apprenait à faire le ménage, à faire la vaisselle, tout ça, tout bien, quoi. La broderie.
Alors vous dessinez quand pendant ce temps-là? Parce que j'imagine que le goût du dessin vous est venu bien avant votre réclusion volontaire, en plus, parce que vous êtes allé volontairement, vous.
Oui, c'est moi qui ai demandé à aller en pension, parce que je ne m'entendais pas avec mon père, donc je me suis retrouvée là. Et puis... Mais j'en ai pas souffert en même temps, parce que c'était.
Vous observiez la preuve en elle.
Voilà, ça m'a servi à faire des albums, donc c'est formidable. Et moi, j'ai toujours dessiné. Alors ma mère m'avait dit que je dessinais déjà dans la purée avec ma fourchette. C'est vrai que c'est une manie, c'est une maladie, c'est de dessiner tout le temps. Donc mes cahiers d'écolier étaient constellés de dessins. Donc à l'époque, effectivement, je m'inspirais beaucoup de Disney, parce que mes parents m'avaient abonné au journal de Mickey, par exemple, et donc je reproduisais des Mickey, des Pluto, partout, quoi. Donc je dessinais comme ça, tout le temps, une maladie, quoi.
Le premier gros nez dans la mousseline, Céline Duchesne.
Il y a quelques personnages masculins qui apparaissent dans votre bande dessinée. Le père, les deux pères qui sont... Donc j'aurais aimé savoir comment est-ce que vous avez choisi ces personnages aussi qui, d'une certaine manière, sont très caricaturaux en tant que qu'homme, figure paternelle, en tout cas.
J'ai poussé un peu le bouchon un peu loin pour bien... Oui, c'est la caricature. Alors, on pousse un peu loin. Mais mon père avait une déesse cabriolet, comme j'ai dessiné dans l'album. Et quand il venait me chercher au pensionnat avec sa déesse cabriolet, en plus, il avait la casquette de la même couleur que la voiture et tout. Il arrivait en faisant beaucoup de bruit, tout un point. Et les autres filles, leur père venait en traction, en bétaillère, les chercher. Donc ça faisait tâche, quoi. Et donc voilà, c'est tout ça que j'ai voulu raconter.
Parce qu'il y a un père qui est violent, qui frappe sa femme.
Alcoolique, violent.
L'autre père de la famille plus chic, qui lui est un père beaucoup plus éthéré, quelque part.
Voilà, plus élégant, oui.
Et un petit jeune homme au milieu qui est l'amoureux transi, qui est une figure, je trouve, assez jolie, une figure masculine assez jolie de l'amoureux romantique.
Bien sûr. Et donc lui, il a existé aussi, mais il n'est pas mort, j'ai brodé aussi autour. Les personnages, ils existent vraiment, quoi.
Voilà. Ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs, vous explorez via le dessin deux formes de violence sociale. Il y a la violence, je dirais, rurale, paysanne, frontale, qui se marque par la salle commune, la table commune, des réactions spontanées, ça gueule, ça crie, ça cogne, on casse des objets. Donc c'est une espèce de présence à soi bien compacte, comme ça.
Ça vous voit beaucoup.
Et puis,
il y a
la violence bourgeoise, qui est plus feutrée, qui est plus sinueuse, et qui n'est pas moins redoutable, puisque quand les choses, on va pas trop en dire, mais quand les choses dégénèrent pour l'une des deux héroïnes, eh bien, la famille prend les choses en main, et là, finit de rire. La coulitude du papa anglomane, qui fait du hello darling, quand il vient chercher sa fille, disparaît. Là, on retrouve quand même ce qu'on appelle l'ordre familial bourgeois, serré.
Ils résolvent les problèmes à leur manière. Alors, il y a la méthode paysanne où on cogne, et puis la méthode élégante où on s'arrange. On s'arrange, voilà, comme on disait à l'époque. On s'arrange de tout ça.
Antoine Guillot. Alors, je soupçonnais tout à l'heure peut-être une différence de dessin dans ce livre. Est-ce que c'est moi qui me trompe, ou il me semble qu'il y a quelque chose de plus griffé, de plus jeté, peut-être de moins préparé avant. Je ne sais pas si vous faites beaucoup de crayonné, par exemple, ou si vous allez directement directement au dessin, avec cette science raffinée que vous avez chez vous de caractérisation du personnage. très troublant, c'est que vos personnages, un peu comme les Schtroumpfs, font tous les mêmes éléments de base, le même nez patate un peu retroussé avec ces deux lignes au-dessus du nez qui donnent toujours l'impression qu'on fronce un peu le nez comme ça, mais par une coiffure, par un vêtement, vous distinguez les personnages, mais avec surtout, on sent que vous avez beaucoup de plaisir à caractériser les visages, les émotions, avec une économie de traits à chaque fois que je trouve formidable. Alors, est-ce que, voilà, je reprends ma question du départ, est-ce que vous dessinez directement à l'encre, est-ce que vous crayonnez, voilà.
Non, je crayonne pas beaucoup. Je fais des crayons très, très légers comme ça. Et effectivement, je vais directement à l'encre. Et ce que je fais en premier, c'est le personnage avec son expression. C'est ça qui me vient en premier. Puis après, les décors. Alors, j'aime pas trop faire les décors. Donc, voilà, j'essaie de plutôt faire des personnages en gros plan. Et pour moi, c'est important, c'est l'expression du personnage, quoi. Parce que parfois, on n'a pas besoin de bulles pour raconter des choses. Il y a juste besoin de, voilà, une tête qui sourit ou qui pleure, tout ça, et on a compris, quoi. Donc, ça, j'aime bien jouer avec ça, quoi.
Et le fait de dessiner directement à l'encre, vous jouez avec l'accident par moment. J'imagine qu'on ne réussit pas. Enfin, bon, on a du métier quand on est une autruche chevronnée comme vous, mais.
Oui, mais je travaille au pinceau. Alors, effectivement, ça donne un trait très souple et tout. Et puis, avec le temps, on fait des progrès. Alors, j'ai mon autre album qui s'appelle Harry Mixon. Et là, on voit la différence de trait, quoi. Au début, je travaillais avec des feutres ou avec un rapido, comme on l'appelait à l'époque, qui fait un trait vraiment bien uni, un peu à la Tintin, à la Hergé, quoi. Alors que maintenant, je fais ça au pinceau. Donc, ça donne un côté beaucoup plus souple et beaucoup plus vivant au dessin, pour moi.
Qu'une couleur générale de l'album, je veux pas dire, qui est un petit peu sépia. Enfin,
sépia, oui.
Voilà,
oui.
Justement,
oui.
Qui. Alors là, c'est la dimension de la mémoire, puisque c'est toujours émouvant. Hein. Le sépia est tellement associé au souvenir, à la remémoration.
À l'ancien, oui.
Que,
oui.
Effectivement, ça peut être très violent par moments, ça peut être très drôle aussi. Oui. Il y a toujours une mélancolie. Tu vois, qu'à l'arrière-plan de tout cela, il y a quand même une forte mélancolie, Florence Sestac.
Très forte, très forte. Oui, je suis une grande mélancolique. Voilà, donc ça ressort effectivement dans ce que je fais.
Et la couleur arrive avec mai 68, donc la dernière planche de la bande dessinée.
Voilà, qui est vraiment le truc de l'époque. 68, ça a été le ciel qui s'ouvre et le ciel bleu enfin qui arrive.
Alors c'est une chute formidable ce mai 68 et ces manifestations avec ces slogans qu'on adore du genre c'est pas la bite qui nous dérange, c'est le mec qui est autour.
Ah, ça, c'est la dernière. Florilège.
Elle est belle celle-là, elle est vraie. C'est un slogan du MLF, voilà. Je ne l'ai pas inventé.
C'est la dernière bulle, mais alors c'est un tome 1. Alors qu'est-ce qui va se passer dans le tome 2? On est dans mai 68, on est dans l'après. Vous allez revenir sur ce couvent?
Non, après on va après 68. Effectivement, où on pensait tout changer, tout révolutionner, et puis bon, on va commencer, puis ça va peut-être pas faire comme on aurait voulu que ça soit, mais bon, on va se débrouiller quand même, et on va suivre ces deux filles presque jusqu'à maintenant, jusqu'à notre époque.
Voilà, le monde n'est pas une marchandise, un homme sur deux est une femme, mon corps est à moi, et fille des oiseaux, eh bien, c'est chez Dargo. Je reçois ce soir Florence Sestac à l'occasion d'une double sortie aux éditions Dargo, le premier volume donc de Filles des oiseaux. N'oubliez jamais que le Seigneur vous regarde. Et puis alors le deuxième, d'une tonalité quand même différente, qui plonge aux sources et aux origines de votre carrière. Je ne sais pas le mot, une carrière d'autruche.
Allez,
je sais pas,
mais si, maintenant.
De votre voix.
On n'a plus honte, on va décider de faire carrière.
Harry Mixon, Anko. Alors moi je vous pose la première question, n'est-ce pas, sauvagement. Est-ce que vous étiez à l'époque une grande lectrice de Harry Dickson? Parce que j'imagine qu'il y a un jeu de mots avec Harry Dickson, dont je suis moi-même le fils spirituel, si j'ose dire. Et donc, je voulais savoir. Donc, Harry Dickson, vous étiez une lectrice des marabouts, marabouts fantastiques. Harry Dickson, le commissaire Goodfield, Mrs. Crowe, l'ombre, les sortilèges.
Absolument. Et alors, effectivement, le Harry Mixon, je l'ai créé avec un homme de radio qui s'appelait Olivier Nanteau à l'époque.
Que je salue.
Du pape Claire,
oui. Qui est malheureusement décédé. Voilà. Et c'est avec lui que j'ai créé ce personnage. Et les premières bandes sont parues dans l'Écho des savanes.
Et alors, vous n'avez pas choisi de faire une bande dessinée fantastique, réaliste?
Non, je suis pas bonne dans le fantastique. C'est... Moi, je suis bonne dans ce que je vis, et je raconte ma petite vie, tout ça, là, je suis bonne. Mais le fantastique, je laisse ça aux garçons, ils sont plus forts que moi.
Alors, Harry Mixon, Monsieur Antoine.
Alors, Harry Mixon, on l'avait déjà vu réapparaître il y a quelques années dans ce livre essentiel pour comprendre un peu ce qui s'est passé dans les années 70 et 80-90 en bande dessinée en France, qui est La véritable histoire de Futuropolis, que vous avez publié, Florence Sestac, chez Dargo, où on voit déjà ce personnage de Harry Mixon en couverture entre la chienne Françoise Ratier et vous-même, Florence Sestac. Ceux qui fréquentaient la librairie... Futuropolis se sont fait aboyer dessus pendant des années par une vilaine bête qui s'appelait Françoise Ratier.
Elle ne mordait pas.
Elle avait ses amis, mais beaucoup d'ennemis aussi. Donc ce chien déjà tout droit sorti d'un dessin animé, puisque vous avez ces chiens blancs avec une tache noire sur l'œil. Et alors arrive donc ce Harry Mixon. Et alors, ce qui est passionnant avec ce livre Harry Mixon et compagnie, avec quelqu'un, sur la couverture d'ailleurs, on a un Remixon devant des micros de radio qui fait nettement plus la tête que Florence Sestac aujourd'hui. On voit naître un personnage. Et ça, c'est formidable parce qu'on voit même les feuilles de l'éphéméride de 1977 de la librairie Futuropolis, où on sent bien que quand vous avez le temps entre un film de photogravure à retoucher, une commande à expédier et autres menus travaux à faire, l'attaché de presse aussi, grande attaché de presse, Florence Sestac, ça j'aime beaucoup dans Futuropolis. La véritable histoire de Futuropolis.
Je suis moins sûr, mais bon, j'ai fait de mon mieux.
Quand Florence Sestac n'aimait pas les articles qui étaient écrits sur les livres de Futuropolis, elle ramassait divers débris dans la rue, dont des crottes de chien, qu'elle scellait dans un sac plastique, qu'elle envoyait à l'indélicat en lui disant « Voilà notre dernière production, j'espère que vous apprécierez. »
Voilà. Hélène Verlet, la chasse de Dargo.
Hélène Verlet n'ose pas encore, mais je pense que...
Écoutez, quand les gens vous énervent, ça devrait un jour.
Non, voilà. Alors, ce qui est très beau, ce que j'aime beaucoup avec cet Harry Mixon, c'est qu'avant qu'il vive des aventures, Harry Mixon est un pur objet graphique qu'on voit évoluer, qu'on voit se créer presque sous nos yeux. Et le premier livre d'Harry Mixon est publié et imprimé sur les chutes d'un album de Futuropolis. On gâchait pas le papier chez Futuropolis. Quand il y avait de la marge, on imprimait un autre album dedans. Tout petit format 12x16. Et ce Harry Mixon numéro 1, ce sont des purs objets graphiques. Je trouve ça d'une modernité totale. C'est des cases, donc des strips de 4 cases disposées en carré, où on a de la séquence presque abstraite. Et je trouve ça extrêmement beau à voir. Alors, ce genre d'expérimentation graphique, c'était pour passer le temps chez vous? C'était pour vous mettre dans un courant qui se faisait, par exemple, de l'autre côté de l'Atlantique avec Rowe?
Oui, c'est ça. Oui, je gribouillais quand j'avais le temps et l'espace. Et effectivement, je publiais toutes ces aventures dans les revues qui existaient à l'époque. Alors, c'était Metal, c'était Pilote, à suivre, et donc je trimballais comme ça mon petit personnage un peu partout, et puis quand j'avais 5 minutes, je faisais des petits strips, et après on en faisait des albums. Tout était facile à l'époque, puisqu'en plus j'avais ma maison d'édition, donc tout ça était fort rigolo, quoi.
Mais vous considériez déjà comme une autruche, pour reprendre le mot, ça sera le mot de l'émission, vous faisiez ça parce que, voilà, vous aussi, vous aviez envie, que à l'époque, vous êtes surtout une très grande éditrice. Il faut rappeler quand même qu'à Futuropolis, vous dirigez la collection Copyright, vous rééditez, voilà. vous traduisez tous les grands classiques de la bande dessinée américaine et Popeye.
Magnifique livre, formalité.
Popeye en premier lieu, avec
collection Copyright.
Voilà, un travail d'édition. Tous les gens qui retrouvent des copyrights, il faut absolument les prendre. C'est des grandes éditions, absolument collector. Donc vous aviez le sentiment de sacrifier votre métier d'artiste, qui était celui auquel vous vous destiniez peut-être au début, ou pas du tout?
Bah, j'ai fait les beaux-arts, j'ai fait les arts déco, donc c'était dans le dessin que je voulais aller, tout ça. Mais bon, après, on a eu effectivement l'expérience de cette librairie, puis la maison d'édition. Donc c'est une aventure, l'aventure éditoriale, c'était formidable aussi. C'était passionnant, c'est de recevoir des auteurs, vivre avec des auteurs et créer des livres avec des auteurs, c'était une aventure passionnante. Et effectivement, de dessiner, ça me tenait toujours à cœur et tout. Donc, dès que j'avais 5 minutes, je faisais mes petits personnages, quoi. Mes petites bandes dessinées. Et puis, c'était publié, pas publié. Je gardais pour moi et tout. Ça avait pas d'importance, quoi. On faisait pas carrière à l'époque.
Au double sens du mot, oui. Marginal.
Voilà.
Céline Duchesnay.
Oui, j'aimerais revenir sur le plaisir de la courbe. Je repensais à l'interview de Pénélope Bagieux qui disait que c'était très jouissif de dessiner les courbes d'une belle barbe. Et je me posais la même question pour vos personnages à Gronet. Est-ce que le choix du gros nez ou est-ce que c'est lié aussi à un plaisir de dessin?
Ah oui, parce que l'arrondi du gros nez, ça va pas tout seul et je commence très souvent par dessiner le nez et donc il y a un coup de main à avoir pour faire tourner le pinceau pour faire un beau nez. Et ben c'est des années d'expérience, voilà.
Fins connaisseurs auront reconnu Sédation, un choix de Laurent Polleret pour la playlist de Mauvais Genre ce soir sur France Culture, monsieur Antoine.
Alors, puisqu'on parle grenet, le grenet, ce n'est pas seulement un coup de pinceau, c'est aussi du modelé, c'est aussi du volume. Les passants qui s'aventurent dans la rue Martel en ce moment, dans le 10e arrondissement de Paris, peuvent voir en vitrine de l'excellente galerie Martel, je crois qu'on n'a pas raté une exposition là-bas, une superbe Marianne affichant fièrement son énorme tarin sur la rue. Et derrière, rentrez donc dans la galerie Martel et vous verrez une collection de 12 masques en papier mâché reprenant un certain nombre des personnages de Florence Sestac en volume. Et c'est vrai que chez vous, il y a ces publications qu'on a évoquées tout à l'heure, mais il y a aussi toujours eu cette aventure vers des objets assez étranges. Moi, je me souviens de vos merveilleux tableaux de biche chinés. Vous êtes une grande chineuse, on va y venir. Et dans lesquels vous interveniez très plus ou moins discrètement avec vos personnages à Gronet et donnant tout d'un coup donnant la grâce et l'honneur à des peintres du dimanche, quoi. C'était absolument voilà. Formidable. Vos autres pratiques autour du Gronet, comment ça se passe? Pourquoi ces masques, par exemple, que vous faites depuis des années, je crois?
Oui, tu fais des masques, j'ai fait des cactus, j'ai fait beaucoup de choses avec le Gronet. Donc pour moi, tout ça, c'est lié parce que je les vois aussi bien en volume. Moi, je les dessine, mais je les vois aussi en volume. Et donc la Marianne, c'est Jean-Marie Pigeon qui l'a faite et c'est un sculpteur qui a fait beaucoup de personnages de moi depuis toujours. Il est vraiment très doué. Et donc cette Marianne est dans la mairie d'Angoulême, dans la salle des mariages. Et aussi à la mairie de Puteaux.
Ah oui, c'est authentique.
Voilà, donc il y en a 12 exemplaires.
Vous avez le choix entre Catherine Deneuve et, et la Marianne de Sestac.
Alors qui dit librairie Florence Sestac dit acheteur, heureusement, oui. Mais dit également collectionneur, voire érudit, oui. Donc névrosé. Et là, dans Harry Mixon & Co., il y a une chose extraordinaire, il y a la Chine du samedi, puisque vous mettez en scène, alors, non seulement les collectionneurs de bandes dessinées, avec une sorte de conte noir mélodramatique, puisque oui. La rage de post- posséder un numéro manquant mènera un pauvre homme vers la mort, après être passé par le vol, hein, qu'en auraient pensé les sœurs. Elles auraient eu une confirmation de leur vision de la bande dessinée, les sœurs des oiseaux. Mais il y a également la Chine du samedi, c'est à hurler de rire. Le monde des chineurs qui poireautent au cul du camion avec leur lampe torche pour récupérer. Et puis quand ils voient arriver un joli petit meuble, ils se couchent dessus.
Mais c'est du vécu tout ça, j'ai vécu tout ça. Et effectivement, quand on avait les librairies, on vendait des bandes dessinées d'occasion. Donc on allait chercher au marché aux puces et on a vécu... effectivement, au cul du camion le samedi matin, et hop, on sautait sur les objets pour les attraper. Quoi. C'est formidable.
C'est même grâce à ça que vous avez payé la librairie Futuropolis.
Exactement.
Grâce à vos affaires que vous faisiez.
Et merci les collectionneurs, parce que c'est grâce à eux qu'on a monté cette maison d'édition.
Alors, Antoine Guillon parlait en début d'émission du festival Formula Bulla. On va dire quelques mots de Charlie Schlingo.
Oui, Charlie Schlingo sera à l'honneur un peu plus de 10 ans après sa disparition brutale. Le chantre de la ligne crade, le poète des rues formidable qu'était Charlie Schlingo, va avoir une exposition monographique, toujours au point éphémère. Ce sera donc dans Formula Bulla du 30 septembre au 2 octobre. Vous allez intervenir, je crois, à nouveau sur votre ami Charlie Schlingo. Vous aviez publié avec Jean Tellet une formidable biographie dans le ton Florence Sestac, c'est-à-dire Rions avec le tragique, qui s'appelle, rien que le titre, vous comprendrez tout de suite, « Je voudrais me suicider, mais j'ai pas le temps », parole authentique de Charlie Schlingo. Oui. Pourquoi est-ce qu'il faut redécouvrir Charlie Schlingo aujourd'hui,
Florence Sestac ? Parce que c'est indémodable et tout ça, et que... Effectivement, quand on connaissait le personnage, c'était encore meilleur, mais il a un univers unique, quoi. Et donc, il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas deux comme lui dans la bande dessinée. C'était vraiment l'artiste dans toute sa splendeur, le complètement libre, qui inventait tous les trucs tous les cinq minutes. C'est le seul auteur que j'ai vu dessiner et mort de rire de ce qu'il dessinait et de poser le crayon pour rire et dire qu'est-ce que je suis con, mais qu'est-ce que je suis con. Voilà. Donc, moi, c'est des souvenirs, des images merveilleuses, quoi.
Alors, qu'est-ce qu'on pourrait citer de Charlie Schlingo pour nos auditeurs?
Ah bah peut-être Josette de Rechange, qui était son grand personnage, parce que lui il manie d'ailleurs un univers assez proche de celui que pouvait publier Futuropolis avec la collection Copyright. C'est-à-dire Josette de Rechange, c'est une Popeye au féminin. Vous voyez des animaux qui sortent directement des premiers Mickey de Gottfredson, etc. Avec un univers et surtout une invention langagière. Et si vous avez des enfants, essayez de vous procurer des vieux numéros de la revue la plus géniale qui ait jamais été publiée pour les enfants, qui s'appelait Gros Dada, qui a été faite par le professeur Choron et par Charlie Schlingo. Voilà, à redécouvrir. C'était... Et tout cela est réédité récemment, je ne sais plus si c'est l'association Cornelius qui a réédité des œuvres de Schlingo.
Oui. Donc ça Joseph d'Orchange et compagnie, ça a été réédité à l'association.
Dans le cadre du festival Formula Bulla, avant que nous entendions Christophe Beer dans une minute à peu près, Antoine Guillot, quelques préconisations. Latin préconisare. Dans la perspective
ça sera
d'une bonne éducation,
une préconisation,
clamer haut l'intérêt que l'on porte à quelque chose.
Une préconisation unique aujourd'hui, puisqu'on suit à la trace Richard Corben.
Richard formidable Corben, travail, immense, Delirium.
Immense dessinateur depuis les années 70, et qui donc quitte un peu l'univers d'Edgar Poe, dont nous avions parlé récemment, pour revenir sur les terres de Lovecraft, avec ce nouveau livre qui s'appelle Rat God, le dieu rat. Et on est dans une sorte d'univers étrange qui serait le territoire des fictions de Lovecraft, c'est-à-dire que vous avez tous les lieux de l'époque, avec un homme qui est une sorte de portrait de Lovecraft, un portrait un peu caricatural du personnage, c'est-à-dire que c'est un lettré antisémite, raciste, misogyne, comme pouvait l'être Lovecraft à ses heures perdues, et qui va tomber amoureux d'une femme dont il va se rendre avec horreur qu'elle vient d'une communauté indienne des forêts perdues du Massachusetts, mais qui par amour va aller la retrouver et tombe dans un village où des rites païens et des sacrifices humains terribles
attendent des origines de l'humanité
et qui vont l'éclairer de manière inattendue sur ses propres origines. C'est toujours aussi superbe graphiquement, c'est toujours très gore, très violent, mais c'est génial. C'est Richard Corben, Rat God, chez Delirium.
Ah oui, le label Delirium, on ne saurait trop recommander d'en surveiller les parutions. L'émission s'achève bien évidemment avec Christophe Beer.
En 1993, David Didlow consacre le numéro 1 de son fanzine Vidéotopsie à l'étude de Virus Cannibal, un film de Vincent Down, alias Bruno Mattei. 23 ans plus tard, il récidive avec un livre impressionnant sur ce réalisateur conspué. Bruno Mattei, Itinéraire bis, publié par Artus Film, est une balade passionnante dans la décadence du bis italien. Après deux décennies de montage, Mattei passe en effet à la réalisation dans les années 70, ne travaillant qu'avec des budgets de misère et des acteurs de second plan. Il patouille dans les filons les moins reluisants, rafistole à grand renfort de stock shot et pratique le double tournage. Son cinéma bricolé et rugueux colle aux pulsions glauques. Hôtel du plaisir pour SS, tourné dans des décors indigents, vaut pour le cabotinage absurde des comédiens et son sadisme outrancier. Le couvent corrompu par le mal des novices libertines, le palais bestial de Caligula et Messaline, les cellules nauséeuses de pénitenciers de femmes offrent des répulsions similaires. Plus que pour les plagiats dévoyés des grands succès, Mattei retient l'attention par ses divagations et ses incohérences. Virus cannibale, qui copie des scènes entières de Romero, propose, par sa collection disparate de stock shots, une nouvelle Guinée impossible. Un chat sort du ventre déchiré d'une grand-mère zombie. Un militaire vêtu d'un tutu vert et d'un chapeau claque chante « Singing in the rain » avant que des zombies radioactifs ne se jettent sur lui pour le dévorer. Les rats de Manhattan est un autre pic qui abandonne le prétexte post-nucléaire pour le huis clos de la nuit des morts-vivants. Aux Philippines, dans des conditions folles, Mattei tourne des sous-Rambo et un robot-war qui décalque le John McTiernan. Il portera l'étendard laminé du bis jusqu'aux ultimes soubresauts des années 2000, se vouant aux imitations érotiques de Basic Instinct. Affaibli par une tumeur au cerveau, l'artisan forcené tourne un dernier film de zombies philippins, démarquant avec autodérision « Alien le retour ». Il faudrait sauver deux westerns tardifs de 1986, Bianco Apache et Scalp, cruels et nihilistes. Mais la jungle de facsimilés grossiers, souvent laborieux, de grands succès, pillés sans vergogne, sidère. Leur décalage extravagant les transforme parfois en réjouissantes parodies et donne aux cinéastes une reconnaissance inattendue.
Merci Christophe Beer. Je rappelle donc les sujets que nous avons traités ce soir en compagnie de Florence Sestac, dont Pénélope Bageux, culottée des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent, c'est chez Gallimard Bande Dessinée. Florence Sestac, l'exposition est visible à la Galerie Martel jusqu'au 15 octobre. Et on peut lire d'elle, bien évidemment, Harry Mixon & Co. chez Dargo. Et puis, lisez, relisez, faites lire et faites relire. Faites Fille des oiseaux, n'oubliez jamais que le Seigneur vous regarde, évidemment aux éditions Dargo. À signaler également, et très précieux, la véritable l'histoire de Futuropolis de Florence Sestac, 1972-1994, c'est chez Dargo également. De même que Je voudrais me suicider, mais j'ai pas le temps, de Florence Sestac et Jean Tenet sur Charlie Schlingo. Et puis on en a parlé à la fin de l'émission, Rat God de Richard Corben, le label Delirium. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Jean-Richard Dufour, Claire-Martin Dugard, Anaïs Isbert, Céline Duchesneux, Antoine Guillot, Christophe Bir et François Angelier vous remercient d'avoir suivi cette émission. On se retrouve samedi prochain, mais on a un lieu tout à fait particulier, puisque samedi prochain c'est la nuit blanche parisienne et une grande tranche vous sera offerte de 21h à minuit en bord de Seine, et je serai en compagnie de Mathieu Conquet et de notre ami Thomas Baumgartner, et Mauvais Genre sera bien sûr de 22 à 23h, mais en public, et nous traiterons du pont, qui est le thème cette année de la nuit blanche, du pont et de la Seine. D'ici là, bonne nuit à tous. Push up, push up, you must go.